revenir sur un des points que j'ai évoqué. Je rappelle que j'ai parlé de la démocratie de la vérité, Carte, en s'est opposé ésotérisme et exotérisme, et puis ensuite j'ai évoqué un domaine, secret de famille, secret d'État, secret professionnel. Et là, il y a un certain nombre de questions qui se faisaient jour, et je vous avais dit d'attendre, mais on peut commencer. Alors, oui, Suzanne.
Oui, absolument. C'est vraiment très paradoxal. Les théories du complot fleurissent, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans maintenant, c'est assez récent. Hein. Mais il y a énormément de sites qui relaient et selon lesquels on nous cache tout. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un site qui s'appelle On nous cache tout. Il y a toute une série de sites sur Internet qui sont censés, qui prétendent amener la vérité vraie. Sous-entendu, ce que nous disent les informations à la télé, à la radio, dans les journaux, ça fait partie du complot. C'est un vrai thème de réflexion philosophique, ça, aujourd'hui, parce que les auteurs n'hésitent pas à parler d'une espèce de pathologie là, collective. Moi, je trouve ce phénomène très inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cette idée que vous avez des gens qui systématiquement considèrent que l'information officielle est fausse, qu'il y a un complot. Alors, ça avait déjà commencé à l'époque, vous vous rappelez quand il y a eu la vaccination proposée j'en avais déjà parlé dans une autre occasion, je crois. Moi, je me rappelle, des gens ne voulaient pas se vacciner parce qu'ils disaient que c'était faux, qu'en fait, le vaccin, ça allait permettre au pouvoir en place, en France, hein, d'injecter dans le corps des gens des puces RFID, des puces pour les suivre à la trace. Quoi. Vous vous rendez compte de l'unité, c'est terrible. Pourquoi est-ce qu'il y a cette défiance? Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi y a-t-il autant de gens qui pensent qu'on leur cache tout?
C'est le foisonnement qui engendre ça. C'est le foisonnement de l'information qui provoque le questionnement. Et ce questionnement n'avait pas lieu d'être tant qu'on n'avait pas l'information. Et qui engendre le doute, du point de vue les théories du complot, puisqu'il y a doute. Il y a d'autant plus doute que, de mon point de vue, il y a incompréhension. Comment, à cause du foisonnement, multiplicité de l'information, incompréhension d'une grande partie de l'information qui est fournie, doute, complot.
Donc, complot, c'est ça.
Je raccourcis peut-être intellectuellement la chose, mais bon, pourquoi pas.
Oui, et moi je rajouterais, mais je partage ce que tu viens de dire, hein. Je pense que c'est aussi un des signes de la défiance majeure d'une partie de la population avec les politiques. Parce que, en fait, c'est une remise en cause même de la démocratie, moi je dirais. Hein. Et souvent, les thèses complotistes, elles ont parfois un relent très raciste. Il y a le complot, puis il y a ceux qui sont derrière le complot. Et très rapidement, quand on commence à creuser, on a des thèses antisémites.
Mais c'est aussi parce que.
Oui. Et en tout cas, dans les théories du complot, elles se nourrissent de tout, hein, de toute façon. Oui, vous voulez intervenir?
Bah,
sur vrai. Vous voyez, moi, ce qui me surprend, et je vais vous donner la parole juste après, j'avais parlé tout à l'heure, hein, je suis revenu sur Tchernobyl, en 86, vous ne vous rappelez pas qu'il y avait des théories du complot? Où là, on aurait pu, finalement. En tout cas, là, il y avait deux chaînes de télé, enfin, en France, en tout cas, l'information était quand même assez bien bridée encore à l'époque. Hein. À l'époque, bon, c'était un peu avant, mais c'était, on disait, le journal télévisé, c'était la voix de la France. De Gaulle et Pompidou, la voix de la France, hein, c'était Michel Droit qui avait dit ça. Là, à la limite, la théorie du complot, elle aurait pu s'arrêter sur une information bridée. Là, aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Et paradoxalement, c'est là où il y a le plus de théorie du complot. Oui, je vous en prie. C'est lié à un manque de culture.
Pas uniquement, mais il y a un manque de
culture. On dit incapacité à trier le bon grain et livrer dans la formation, c'est ça. Voilà. Donc, donner des outils critiques. Oui. Parce qu'on zappe. Hein. Alors, allez-y, oui.
C'est un acte. Oui. Mais paradoxalement, notre système éducatif n'a jamais été aussi évolué. Et donc le niveau culturel s'est accru considérablement. Donc on devrait avoir, enfin pour une grande partie des gens, on devrait avoir les outils intellectuels pour pouvoir trier ce qui nous est.
C'est pas mis en perspective.
Alors je vais. Alors, justement, j'allais parler moi. Non mais tu fais bien. Juste avant de vous redonner la parole, hein, moi je le vis en tant qu'enseignant. Hein. Chez les élèves cours, hein, théorie du complot, on les entend. Effarant, parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est pas là un échec massif de l'apprentissage de l'esprit critique, qui est quand même le rôle de l'enseignement public, hein, enfin public et mais en tous les cas, je me souviens avoir eu des débats avec mes élèves
C'est très vite, on a plus alors des élèves qui disaient septembre à l'époque, c'était voilà, il y a eu un complot là. Et puis les Illuminati. Alors ça sort tous les Illuminati, un groupe caché qui gouverne le monde. Et ça, vous le trouvez dans plein de sites. Alors je me dis, mais incroyable. C'est, j'avais en face des yeux mon propre, enfin, le propre échec de l'école. Propre, voilà, complètement. Alors qui veut intervenir?
Oui. C'est pour ça que quand tu vais, je ne sais pas, pour rejoindre la théorie de le vocabulaire, et ils sont incapables.
Oui. Et tu mettrais en lien directement, Suzanne, cet appauvrissement du lexique, hein, du vocabulaire, avec le fantasme complotiste.
Oui.
Et tu ne penses pas qu'il y a des étapes? Parce que, enfin, moi j'ai connu des élèves qui avaient peu de vocabulaire. Il n'y a pas, outre ce que tu dis, hein, encore une fois, une défiance visoire, quoi. Hein. De la représentation, est-ce que ça aussi lié à la crise de la citoyenneté, enfin à d'autres choses qui interviennent? Parce qu'on peut avoir peu de vocabulaire et pas croire à toutes ces bêtises, hein, pour rester poli, que véhiculent les théories complotistes.
Mais c'est Internet.
Ah oui, mais dis donc, j'avais. Alors avant que tu interviennes, je me permets, hein, je voulais. Collègue Jean-Christophe Galetti est ici, donc je t'avais pas vu, qui va intervenir. Collègue en philosophie, je t'avais pas vu, Jean-Christophe. Oui, interviens, bien sûr.
Oui,
mais là, je comprends.
Mais quand tu es jeune adulte, donc d'où nous vient la novlangue? C'est pas le gouvernement.
Et elle a du sens, elle fait sens. Hein. Est-ce que finalement, merci pour cette intervention, est-ce que ce qui pose ta question, c'est aussi la pluralité de l'information? Est-ce qu'en France, puisque la question se pose d'abord pour nous ici, hein, on a une information pluraliste ou pas? Parce que très souvent, les théories du secret du complot, donc, hein, interprète les médias comme un seul bloc au service du pouvoir, d'où les médias dits alternatifs. Vous avez aujourd'hui, pour les sociologues, deux lectures de l'information. Ceux qui donnent crédit à ce qu'on appelle l'information officielle, quoi. Les médias dits mainstream. Et puis il y aurait une information underground, enfin une information pérenne. Cette opposition-là, elle pose problème. Mais pourquoi est-ce qu'on est, pour certaines zones, on en est arrivé à un tel niveau de défiance vis-à-vis de l'information? D'où vient cette idée que les pouvoirs, que les journalistes, hein, sont de mèche avec certains politiques? D'où ça vient, ça? Alors, oui.
On a très proche,
oui, le scandale immédiat.
Il y a que la
époque où Paul Barré, on écoutait,
puis la proximité engendre la connivence aussi. Proximité, connivence et compromission automatiquement. Donc doute dans l'esprit des gens.
Alors, je vais distribuer la parole. Hein.
Je t'en prie.
Alors, tu veux intervenir? Oui.
Au rapport père.
Tous les discours se valent, donc on peut les contester, puisqu'ils se valent tous. Et puisque ce processus, je vous redonne la parole, avait été prévu par un ouvrage maintenant qui date un petit peu, mais un ouvrage d'Alain Finkielkraut qui s'appelait La défaite de la pensée, dans lequel Finkielkraut disait on est dans le relativisme absolu, tout se vaut, quoi. Par conséquent, il n'y a aucune raison de privilégier le discours d'un tel plutôt que d'un autre. Finalement, tout se vaut, donc pourquoi est-ce qu'on croirait l'un plutôt que l'autre?
Par rapport au temps aussi. Oui. Là, on croit
qu'on
allait très vite dans cette recherche. Oui. Voilà. En recherche.
On va sur Wikipédia, quoi.
Hop.
Oui, et donc ça favorise, ça participe du relativisme, c'est ça que je veux dire. Alors, oui, madame. Oui, dans les interviews, dans les débats.
Dans la générale,
mais ça, alors, déjà, ça vient du déboulonnage des statuts. On a déjà déstatifié un certain nombre de propos, mais c'est propre aussi à la langue française. Si on compare avec la langue allemande, pour comprendre une question, il faut attendre la fin de la question. Et la langue française se prête à ce type d'exercice d'interruption.
Alors,
on avait la politesse, on avait le reste.
Il y avait ça aussi, c'est exact, c'est vrai. C'est vrai. Mais la langue française se prête plus facilement à l'interruption que la langue de nos voisins.
Par exemple, la langue britannique n'est pas comme la.
Aussi. C'est exact.
Voilà, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. On a vu que les journalistes, comme d'ailleurs tous les corps de métiers, en principe, ont un code de déontologie. Pour le cas du journalisme, c'est la charte de Munich. il y a une déontologie du journalisme par rapport à la transparence de l'information. On parle parce que je voudrais maintenant qu'on aborde un autre aspect j'avais évoqué avec vous, mais pour le préparer pour maintenant, c'est celui du secret professionnel. Là, on est toujours dans le même problème, c'est-à-dire la transparence de l'information. Alors madame, vous voulez intervenir? Oui.
À propos du parce que nous sommes intervenus en ce qui concerne et de la famille.
Oui, non, mais c'est intéressant, parce que vous avez distingué trois types d'exigences, ce que vous avez dit. Alors, moi je vous avouerai, puisqu'on est là pour un échange aussi, que sur la question du secret médical, moi, il y a des questions que je me pose, et peut-être que vous allez pouvoir apporter les réponses que je me pose, et qui pourraient alimenter encore la discussion. Moi, j'avais lu il y a quelques temps cela un article, la notion de secret médical, par rapport aux compagnies d'assurance, dans le cadre des prêts bancaires et des assurances vie. Il me semblait qu'il y avait une entorse à la loi, puisque ces compagnies avaient été autorisées à obtenir des informations sur l'état de santé des futurs contractants, qui en principe devraient rester secrets.
Pas auprès des médecins.
Voilà, non, c'est une question que je pose. Donc c'est auprès uniquement des...
Alors, le diagnostic soit...
Voilà. Je crois que ça faisait intervenir. Secret partagé, hein.
Oui, information partagée. Il m'a dit, mais toutefois, que bouge.
Les lignes bougent, c'est ce qui m'avait semblé, hein, mais ça me confirme. Alors, oui, allez-y. Alors, ça, c'est un autre aspect auquel je ne vais pas aborder, qui me paraît très, très intéressant. Moi, je fais le lien avec mon expérience, parce que c'est comme ça qu'on pense aussi. Moi, il y a 4-5 ans de ça, j'avais été invité à participer à un grand colloque l'hôpital de la Timone à Marseille, sur le thème de l'éthique médicale. Il y a un espace de réflexion éthique dans certains hôpitaux, comme à la Timone. Mais c'est un espace de réflexion éthique pour les praticiens, pour les infirmiers, les infirmières, qui sont souvent face à des situations qui mettent en question leur propre système de valeurs. Et je me souviens, le médecin-chef, c'était une femme, de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de la Timone. Un débat, une table ronde, hein, où elle participait, elle avait dit des choses très intéressantes. Elle racontait son quotidien, qui était très très dur. Hein. Donc elle est malade, qui est en fin de vie. Et la question posée de savoir s'il fallait informer ou pas les patients de leur état. Et elle disait que la question se posait à chaque fois, qu'il n'y avait pas une règle unique. Que la question du secret ou non, de l'occultation de l'information en fait, hein, ne pouvait pas donner lieu à une réponse générale. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Parce qu'en même temps, la morale, elle suppose des règles universelles. On peut pas dire, c'est au cas par cas. Il faut des principes généraux, quoi. Et là, moi, je lui avais dit à l'époque, hein, je me souviens, on voit bien à travers les cas qu'elle présentait que la morale telle que les philosophes l'avaient pensée est trop abstraite, au général. Mais en même temps, on a besoin de l'abstraction aussi, hein, parce que c'est parce qu'on a de l'abstraction, descendre au niveau des cas. Mais on sentait bien qu'il y avait un hiatus, une coupure très générale, les grands principes de la morale, le bien, le mal, la vertu, tout ça. Et puis des cas qui chacun était dans sa spécificité. Elle nous avait dit quelque chose d'incroyable. À l'époque, moi, ça m'avait choqué. Maintenant, ça ne me choque plus. Elle avait dit que dans son unité, je vous assure que c'est vrai, à Marseille, au rez-de-chaussée, des patients qui étaient croyants, qui exprimaient une foi, et alors, je ne sais pas, ils leur avaient demandé apparemment, à l'étage, les patients à la foi. Ça m'avait choqué à l'époque. Et puis, elle racontait que les patients qui avaient la foi avaient une fin de vie moins difficile. Moi, ça m'avait choqué d'une part, parce que je trouvais que là, elle donnait des choses très privées, quoi. Elle nous avait très particulières. Et en même temps, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous choque? Et comme ça, deux étages, les croyants et les non-croyants. Vous n'avez pas la même Alors, qui veut intervenir? Oui, je
sais pas. Ça amène une réflexion. Est-ce que dans ce cas, on est apte à recevoir l'information ou non, à l'accepter? Alors après, on peut s'appuyer sur sa foi si on a la foi pour atténuer les choses et on a l'espoir en un monde autre que le monde terrestre. Effectivement, on est peut-être plus apte à recevoir une information qui est a priori quelqu'un qui n'espère rien ensuite et qui peut-être éprouvera un choc émotionnel beaucoup plus intense.
Oui, c'est ça.
Sans l'amortissement, justement, de la religion, de la foi, et ainsi de suite. Cet amortisseur.
Et c'est ce qu'elle avait dit, d'ailleurs. Hein. Elle avait dit que cette était en jeu dans ce colloque, hein, à la Timone, c'était de savoir comment gérer l'angoisse, le stress pour ces personnes qui, même si on si elles n'étaient pas informées de manière très précise de leur, l'évolution de leur état, qui se savaient dans une unité de soins palliatifs, ils ne se faisaient pas d'illusions, hein, mais il y avait la question de la gestion de l'angoisse. Lors de ce colloque, il y avait un prêtre, hein, qui nous racontait que comment ça se passait quand il venait parler aux malades. Donc le prêtre, les prêtres, les imams, ils allaient au rez-de-chaussée, quoi. Et les autres, ils n'avaient pas de visite religieuse, quoi. Il était allé voir une patiente, une dame qui était donc lui venait la voir, elle était heureuse. Et elle, mon père, elle surfait. À l'époque, ça m'avait estomaqué, quoi. Parce que c'est très dur en même temps. Enfin, je sais pas comment. Et ces patients-là, on leur disait plus de choses sur leur état que les autres, qui étaient plus fragiles. Comme s'il y avait une politique du secret à géométrie variable. Ouais,
c'est-à-dire que le rôle du prêtre, c'est un intermédiaire, c'est un intercesseur entre.
Oui, c'est
voilà,
ça,
c'est ça. Donc.
Très dur. Enfin, moi, je me souviens que c'est. Oui, c'est ça.
Pour le malade, c'est important de savoir que.
Ah oui.
Là, pardon.
Il a été adopté. Est-ce qu'on doit dire à un enfant qu'il a été adopté?
Alors, moi, je mets un bémol.
Alors, allez-y, oui.
Parce que, bon, incroyable.
Vous voulez dire qu'ils nous ont volé notre identité, c'est ça? Non,
ils ont volé à leurs vrais parents.
Ah, à leurs vrais parents, par exemple. Ils nous ont volé à nos vrais parents. Sans la question qui se passe,
je n'ai jamais
connu. Alors, ça c'est aussi un axe de réflexion très intéressant. Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Est-ce qu'on doit. Mais, alors, je vous écoute, madame.
Alors, je pense que. Des enfants, après, qui ne comprenaient pas.
Alors, allez-y.
Deuxièmement, je pense que les enfants.
Alors, c'est bien, c'est voilà. Alors,
aussi, je mets un bémol, parce que moi, je dis ça défend. Moi, qui vont nous le dire, peut-être à 30 ans, parce que ça aura eu des expériences, il aura entendu Martin, enfin, il appréciera, comme vous le dites, la manière. Mais, oui, ben, c'est pas
c'est, c'est pas c'est
pour lui cacher.
Alors, allez-y, puis après, je donne la parole à Marianne, et après, je vous dirai quelque chose. Allez-y.
J'ai toujours
qu'il n'y avait pas de confiance. Alors, moi, je voudrais, parce que je voudrais.
Juste.
C'est bon. On voit que la question, elle est loin d'être simple, hein, vous l'avez compris. Hein. Moi, je voudrais vous dire que par rapport à ce que vous venez d'évoquer, ça me vient maintenant à l'esprit, il existe, par rapport au thème de l'adoption, un faux secret, je m'explique, hein, au moment de l'adolescence, au moment de la fameuse crise d'adolescence, qui est un moment difficile, hein, de très grande fragilité, où l'enfant passe et devient adulte, enfin non, adolescent, son corps change, enfin, puberté, tout ça. Il existe ce que les psychologues appellent un fantasme, que de très nombreux enfants possèdent, ils pensent qu'ils ont été adoptés. C'est-à-dire que là, ils s'inventent eux-mêmes un secret. Ils pensent qu'ils ont été adoptés, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas été. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette étape vous pensez bien que ça a beaucoup interrogé les psychologues. Hein. Pourquoi ce fantasme? Mais les parents ne sont pas mes parents. Je suis sûr que ce n'est pas mes parents. Ils se disent, bah, l'explication qui a été proposée consiste à dire qu'au moment où l'enfant... devient un adolescent, au moment où il sort, hein, où il acquiert une identité sexuelle, il a besoin de se différencier des figures parentales envers lesquelles il était dans un rapport fusionnel. Différencier, il y a différentes procédures. Là, qui est fantasmatique, hein. C'est le moment où les enfants qui avant réclamaient absolument à ce que les parents aient à l'école main dans la main, là, c'est le moment où ils disent aux parents, on venait pas, quoi. C'était trop loin, quoi. Il y a vraiment un besoin de différenciation. Et c'est intéressant parce que là, on voit que les enfants s'inventent fantasmes de faux secrets. Vous voyez, donc c'est très complexe. Vous voyez, alors, secret de famille, secret d'État, secret professionnel, moi je voudrais revenir un petit peu sur l'actualité. Hein. Là en ce moment, les médias ne parlent que de ça. Un secret qui est né, et en fait que tout le monde savait, c'était la conduite de producteurs américains. Comment se fait-il qu'une profession au courant n'ait rien dit c'est le DSK du cinéma, quoi. Et vous vous rendez compte qu'une profession entière, exclusivement, c'est ce personnage, il a utilisé son pouvoir sur beaucoup de gens, hein, et sur des années. Comment se fait-il qu'une profession entière puisse être tenue au secret par la peur, quoi, en fait, hein. Alors, Jean-Christophe, oui.
D'abord, c'est pas une profession entière. C'est l'art d'une espèce d'idole. Voilà. Et donc, il y en a quand même deux. Et puis, il y a une actrice. Donc, ça veut dire que personne n'est travaillé. Et pourquoi, depuis des années et des années, une mauvaise presse, un certain nombre, à Paris, dans les 70, et ils nous l'ont caché jusqu'au dernier moment de la nuit pour que tout d'un coup, dans la presse,
il était arrivé des bricoles.
Il était un peu fou, là, tout ça, et du coup, avait, voilà. Et pourquoi est-ce que Merkel, qu'on est quand même hors mariage, est-ce que c'était si beau depuis adopté parce que c'est devenu une figure, à quelque chose de chez lui?
Voilà, et oui, je crois que ce qui est surtout choqué, hein, pour prolonger ce que tu dis, c'est aussi qu'il ait fait des écoutes, les fameuses écoutes. Hein. C'est-à-dire qu'il a utilisé les moyens de l'État, hein, de protection de l'État, pour une affaire qui ne concernait pas le danger de la France. Quoi. Alors, qui était un secret de famille, en fait. Hein. Alors moi, je voudrais terminer sur... je veux bien terminer sur une conclusion. Il y a deux éléments, moi, que je voudrais... que je n'ai pas évoqué durant ma présence tout à l'heure. C'est d'abord, je vais vous dire que en psychanalyse, je pense que tout le monde le sait, mais je le redis, hein, une des règles fondamentales d'une relation, d'un travail de psychanalytique, hein, là où on va parler, c'est ce qu'on appelle la règle de non-omission. S'il n'y a pas cette règle qui est respectée, le travail ne peut pas s'effectuer, en tout cas, on n'est pas dans un cadre thérapeutique. Bon, hein, qu'est-ce que c'est que cette règle de non-omission ? Eh bien, le patient s'engage à ne rien cacher au psychanalyste, c'est-à-dire à dire ce qui lui passe par la tête, y compris il peut lui dire qu'il tombe amoureux de lui ou d'elle. Là, c'est le transfert. Hein. Mais pourquoi ? Parce que ce qui est caché, ce qu'on a du mal à dire, et qui manifeste parfois lors d'une séance analytique par des silences, ce sont ça qui constituent les zones du refoulé. Et le refoulé, c'est l'inconscient. Et la problématique, en général, elle provient des zones refoulées. Pour un psychanalyste, ce qui est difficile à dire, c'est ça qui est intéressant. C'est quand il y a des silences, quand il y a des lapsus, lorsqu'il y a des difficultés. Un sujet sur lequel on n'a aucun problème à discourir, ben ça n'intéresse pas le psychanalyste, parce qu'il n'y a pas de refoulé. Donc le thème du secret, il est important dans une relation thérapeutique, parce qu'il y a la règle de non-omission. Il ne faut pas omettre, il ne faut pas se poser des censures. Il ne faut pas s'interdire de dire des choses, même si ce sont des choses... La relation thérapeutique, elle est sous celui du secret aussi. Hein. Et si cette règle de non-omission n'est pas respectée, on considère que le travail ne peut pas commencer, parce que le refoulé, il restera. Or, la psychanalyse est là pour... j'ai éclaté les zones de refoulement. Un point très important. Il y avait un deuxième point dont je voulais vous parler. J'ai oublié. c'était toujours par rapport au... C'est un secret. Je sais que c'était par rapport au thème de la psychologie, enfin, de la psychiatrie. Moi, je vois qu'on parle beaucoup des journalistes. Hein. Oui. Je pensais qu'on allait plus parler du secret médical, et en fait, je me suis trompé. Ce qui prouve bien, hein, qu'il y a un vrai problème. Enfin, vous en avez vu entre les citoyens, en tout cas une partie d'entre eux. Hein. Et ceux qui diffusent l'information.
Oui. Parce qu'on a dit que ça vraiment un avis, oui. Et c'est un médecin qui se sent
les risques et les troubles.
Mentaux et les risques.
Oui, c'est vrai, c'est un dramatique. Hein. Vous voulez intervenir ? Oui, n'hésitez pas. C'est un événement dramatique, un exemple dramatique. Donc, à la question, toutes les vérités doivent-elles se partager ? La réponse est non, bien sûr. C'est non. Vous imaginez une société où on partagerait toutes les vérités ? C'est une société, autrement dit, totalement transparente. Fonctionner précisément parce qu'on a besoin du secret. Et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire pour terminer. À côté de la psychanalyse, on sait qu'il y a une étape très importante au moment de l'adolescence, donc c'est cette période de fragilité où l'enfant se devient bien, c'est le fait d'avoir un jardin secret. Très important. Ce jardin secret, il se caractérise souvent par la rédaction de ce qu'on appelle le journal intime. Il est terrible que les parents parfois prennent l'initiative, ça arrive, hein, de lire le journal intime de leur enfant, de laisser en découvrir. C'est vraiment vécu comme quelque chose de très traumatisant, en fait. Hein. Il faut respecter les journaux intimes parce qu'ils constituent une étape fondamentale de la construction de l'individu. Et c'est le moment où l'individu passe par ce que Françoise Dolto avait appelé le complexe du homard. Quoi, homard, voilà, la carapace, l'adolescent veut se montrer dur, alors qu'en fait, il est très fragile à l'intérieur, comme un homard. Le journal intime, c'est un exemple de jardin secret qui est absolument nécessaire. On a tous besoin de...
On a tous besoin.
De jardin secret. Comment ?
On a tous besoin.
Voilà. À n'importe quel âge. Hein. Voilà.
Et il y a même des personnes qui continuent pendant très longtemps à écrire un journal intime. Hein.
Et le secret personnel.
On a besoin. On ne peut pas être tout le temps toute extériorité. Quoi. On a besoin d'avoir une intériorité. Oui, madame. Tout à fait. Je suis en termes, d'où l'exigence d'un droit au secret numérique hein, et à l'oubli. C'est vraiment une problématique très nouvelle. Alors moi, je voulais vous dire, merci hein, pour cette intervention, je trouve qu'on a fait quand même le tour de pas mal de problématiques. Alors évidemment, on a fait le tour global de tout, hein, mais le thème du secret, vous comprenez maintenant pourquoi c'est un sujet d'important en philosophie. Hein. Alors moi, pour les dernières minutes, je voudrais demander à Jean-Christophe de bien vouloir... donc, je viendrai intervenir ici. Merci Jean-Christophe d'avoir accepté. Hein. Donc la semaine prochaine, dans un mois, tu nous parleras de... j'avais noté monothéisme ou dualisme, mais tu m'avais dit que c'était un titre qui était un peu tronqué, qui n'était pas complet. Hein. Est-ce que tu peux en parler deux mots, de dire le thème qui sera...
Oui, c'est monothéisme. Ah, du monothéisme.
Voilà, donc c'est intéressant. Alors, sans vouloir dévoiler hein, ce que tu veux...
C'est la question religieuse.
Voilà. Donc, sans vouloir dévoiler ce qui serait à ton propos, est-ce qu'on peut dire que c'est un... Tu vas faire une intervention d'histoire des religions, de philosophie des religions, on peut dire ça ? Des religions, voilà. Ce qui est intéressant pour vous, puisque j'avais, moi, pas du tout abordé ce type de questions. Hein. Donc je vous invite à venir le mois prochain, bien sûr, et je vous remercie.